Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martino.
Cube Radio.
Alors récemment, le HEC a dévoilé un rapport qui affirmait que le tiers des personnes qui étaient mortes de la COVID dans les CHSLD seraient mortes de toute façon dans les mois suivants parce que c'était des personnes qui étaient vieilles, qui étaient âgées, qui n'étaient pas en santé. Donc, le tiers finalement serait mort, et la presse a titré avec ça, le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes. On dit, bah, de toute façon... Ils seraient morts, ils sont vieux de toute façon. Et moi, j'avoue que j'étais assez un peu choqué par ce titre-là, et je n'étais pas seul. Docteur Régent Hébert aussi, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et ex-ministre de la Santé aussi, a steppé, comme on dit en bon français. Bonjour, Docteur Hébert.
Bonjour, Richard.
Et j'avais vu aussi en France, il y a un expert qui a dit, vous savez, la moyenne d'âge des gens qui meurent de la COVID est de 81 ans. Et c'est justement l'âge, c'est l'espérance de vie en France, c'est 81 ans. Donc, c'est pas si pire que ça. De toute façon, il serait mort de toute façon. Donc, c'est assez insultant.
Ben, c'est insultant, certain. Ça m'a fait vraiment sortir de mes gonds parce que ça s'ajoutait à toute une longue liste, là, je pourrais t'en énumérer plusieurs de remarques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse, qui allaient dans le même sens. T'sais, le titre, la presse dit le tiers serait mort de toute façon, mais le rapport de mon collègue Pierre-Carl Michaud des HEC montrait que plus des deux tiers étaient en surplus. Alors, c'est ça, la nouvelle, c'est que plus des deux tiers des décès chez les personnes âgées ne seraient pas survenus et sont en surplus, sont dus à la COVID, et c'est ce que j'ai appelé un agicide, un réel agicide qu'on a vécu. Écoute, quand tu dis que 10% des personnes en CHSLD, 10% sont mortes pendant la première vague de la COVID, c'est dramatique. Imaginons 10% des enfants dans une garderie, 10% des enfants à l'école, imaginons 10% des autochtones dans des communautés.
Ben, c'est
ça aurait
sûr.
Été, ça aurait été le scandale, la mobilisation générale. Et là, il n'y a pas eu de limogeage des dirigeants. Il n'y a pas eu de mouvement Old Life Matter. Il n'y a pas eu de réaction. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser, encore une fois, que les personnes âgées, c'est pas très important. Puis quand ils meurent, ben c'est normal de mourir et leur vie n'a pas une valeur égale à celle des jeunes puis à celle des travailleurs parce qu'ils sont plus productifs puis ils nous coûtent de l'argent.
Vous avez signé une lettre ouverte dans le Soleil. Les vieux allaient mourir de toute façon. Un âgisme systémique révélé par la pandémie. Un excellent texte. Et vous avez parfaitement raison. Écoutez, actuellement, il y a un débat au Québec pour sauver 15 serres à Longueuil.
Ben oui.
OK, et là ils sont submergés à l'hôtel de ville de Longueuil, submergés, Dr Hébert, de messages, courriels, téléphones. Il y a même des gens qui ont téléphoné ce matin ici à la station de Cube en disant « il faut sauver les serres ». Et j'ai un ami, Jean Bottary, qui est préposé aux bénéficiaires, qui parle souvent dans les médias, vous connaissez probablement.
Très bien,
Et Jean a dit « on devrait prendre ces serres-là et les envoyer dans les CHSLD, comme ça les gens s'intéresseraient un peu plus à ce qui se passe là-bas ». C'est de l'ironie, mais en même temps, c'est une triste vérité.
Ben oui, et puis regarde, il y a deux semaines, à l'Assemblée nationale, on a passé la semaine à interroger le gouvernement sur la ventilation dans les écoles, alors qu'on sait que les jeunes, heureusement, ne sont pas à risque de la COVID. Mais personne ne s'est levé dans l'Assemblée nationale pour parler de la ventilation dans les CHSLD.
C'est vrai.
Et c'est encore un autre exemple que les personnes âgées sont victimes d'un agisme systémique par négligence au cours des 30 dernières années. Et le Québec sera une des sociétés les plus vieilles au monde dans à peine 10 ans. Et quelle société nous allons avoir avec 25% de gens de plus de 65 ans? C'est quelle société qu'on veut? Une société où les vieux s'en vont mourir dans des résidences ou dans des CHSLD, ou bien une société où les personnes âgées sont intégrées dans la société et où on peut leur offrir, lorsqu'ils en ont besoin, des soins et services de qualité, des soins et services sécuritaires? C'est quelle société dans laquelle on veut vivre? Dans quelle société on veut vieillir? Et c'est une question là, qu'on doit se poser parce qu'il y a de l'agisme systémique, comme il y a du racisme systémique, et on doit combattre cette ségrégation des personnes âgées dans notre société parce que c'est pas un miroir d'une société civilisée.
Mais vous avez tellement raison sur, je reviens sur ce rapport, cette étude du HEC. La nouvelle, ce qui était choquant, c'est que le 2/3 des personnes qui sont mortes n'auraient pas dû mourir. Et non seulement, le 1/3 de toute façon sera mort de toute façon.
Oui. Et en plus, ils sont morts dans des conditions épouvantables. Ils sont morts faute de soins, faute d'être lavés, faute d'être changés. Ils sont morts vraiment dans des conditions beaucoup plus épouvantables que les chevreuils à Longueuil auraient été au moins euthanasiés. Et je pense que
ben oui.
On a là un beau contraste des valeurs de notre société. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Écoutez, je vous le dis, moi je vous le dis, là, en tant que chroniqueur, je vous l'ai déjà dit, on s'est déjà parlé, en tant que chroniqueur, quand j'écris sur les personnes âgées, j'ai quelques commentaires. Quand j'écris sur les pauvres animaux, je suis submergé de commentaires. C'est fou, c'est
ben,
comme
Richard,
on se dit...
Vous êtes le seul média qui m'a contacté suite à la publication de ma lettre.
Ah
ça,
oui?
C'est vraiment une illustration que ça intéresse pas. Quand on parle d'agisme systémique, ça intéresse personne. Quand on parle de racisme systémique, par exemple, tout le monde monte aux barricades. Quand on parle de cruauté envers les animaux, tout le monde monte aux barricades. Mais lorsqu'on parle de notre société qui a un agisme systémique, même pas caché, ouverte, et à chaque jour, moi, je peux vous montrer des exemples d'agisme par des décisions gouvernementales de ne pas assurer des soins de qualité ou encore de confiner les personnes âgées et leur interdire des sorties. On ferait jamais ça pour n'importe qui d'autre dans la société. Et il y en a des exemples comme ça à tous les jours. Il va falloir se réveiller à un moment donné puis réaliser que on est une société vieillissante qui prend pas acte de son vieillissement et qui prend pas les mesures nécessaires pour éviter de ségréguer les personnes âgées.
Docteur Hébert, ma mère vit en résidence, puis je vais la visiter une fois par semaine. C'est pas énorme, là, une fois par semaine. Je vais tous les vendredis. Après mon émission, je vais la voir. Puis elle se fait dire par ses amis de la résidence, t'es chanceuse, toi, t'as de la visite. C'est incroyable. Déjà, là, comme société, là, et là, c'est facile de blâmer le gouvernement, mais comme individu aussi, là, on prend du soin, on les appelle-tu, on va-tu les voir?
C'est partout, là. Le gouvernement, bien sûr, porte une responsabilité, mais chacun des membres de la société, nous autres, on a aussi une responsabilité de considérer les personnes âgées comme des individus à part entière dont la vie est importante et dont la santé et la sécurité est importante. Alors, c'est notre responsabilité aussi. C'est pour ça que j'en appelle à une réflexion collective. Là, c'est pas juste le gouvernement. Le gouvernement, lui, va répondre aux besoins des citoyens. Il faut que les citoyens puissent réveiller et dire, wow, ça fait, là, c'est assez. On peut pas tolérer ça dans une société civilisée.
Mais la pandémie, ce que ça a eu comme résultat, c'est que ça a accentué des problèmes qui étaient déjà là. C'est pas pour rien qu'il y a eu un tel problème dans les CHSLD. C'était le maillon faible de la chaîne du système de santé.
Et le Québec se démarque malheureusement par rapport aux autres provinces canadiennes. Notre 10% de décès en CHSLD, là, il faut le comparer à 2,3% en Ontario, à 0,6% en Colombie-Britannique, et dans tous les pays européens, ça n'a pas dépassé les 5%. Nous, on a 2 fois plus de morts en CHSLD. Ça veut dire qu'on avait un sérieux problème. C'est pas juste le virus, là. On avait un problème de base dans les CHSLD de qualité de service, de quantité de service, de sécurité. Et si on n'apprend pas de ce qui s'est passé lors de la première vague pour le futur, je pense qu'on s'en va tout droit dans le mur. On pourra pas être capable d'assurer aux personnes âgées sécurité, soins et services de qualité, et on en aura beaucoup de personnes âgées, et donc ça va devenir un enjeu majeur.
Et là, vous dites, nous serons l'une des sociétés les plus âgées au monde dans quelques années. Pouvons-nous tolérer un tel ostracisme envers le corps de la population? Et comme vous le dites si bien, si on avait ce traitement-là envers les Noirs, par exemple, envers les jeunes, envers les gens diraient que c'est épouvantable, mais là, on dirait que c'est le seul groupe qu'on ne défend pas, qui parle en leur nom. Heureusement, vous êtes là pour en parler. Et vous parlez même d'agicide, et vous pesez chaque mot, j'imagine, lorsque vous écrivez une lettre. Agicide, oui. C'est un mot grave, vous le savez, et vous ne l'avez pas utilisé pour rien.
Ah non, je ne l'ai pas utilisé pour rien. Et, votre collègue Bernard Drainville m'a un peu challengé là-dessus. Il m'a dit, ben c'est un mot trop fort. Non, c'est pas un mot trop fort. S'il y avait eu, imaginons, dans les réserves des Autochtones au Québec, s'il y avait eu 10% de décès, on aurait parlé de racisme systémique et de négligence envers cette population-là, et avec raison. Mais pour les personnes âgées, je pense qu'il faut parler d'un agicide, il faut parler d'un agisme systémique, il faut réagir, renforcer les lois, réaffirmer l'égalité pour les personnes âgées et surtout mettre en branle un chantier pour améliorer les soins et services aux personnes âgées, que ce soit à domicile ou en institution.
C'est comme si on se disait, là, mettons, là, 3 ans de plus à vivre quand on a 85 ans. Wow, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon? 3 ans de plus à regarder la télévision, puis tout ça. Ben oui, mais 3 ans, c'est 3 ans. Puis tu tiens la vie même si tu as 85 ans. Si tu as de la visite, s'il y a des gens qui t'appellent, s'il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment, tu tiens la vie.
Et tu peux encore contribuer à la société. Quand je suis allé au Japon, qui était déjà une société avec 25% de personnes âgées à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, ben on voit les personnes âgées un peu partout dans la société, comme guides touristiques, comme chauffeurs de taxi, comme commis dans des magasins. Ils continuent à avoir une contribution active à l'économie. Et on voit que le Japon, même s'il a plus de 25% des personnes âgées de plus de 65 ans, continue à avoir une économie florissante. Ils sont pas dans la dèche. Continuent à s'occuper de leur système de santé et de des soins et services aux personnes âgées, et ils font contribuer les personnes âgées à la société, et c'est ça qu'on devrait avoir comme modèle plutôt que de parquer nos personnes âgées dans des résidences à part de la société.
Ben oui, et on devrait s'inspirer aussi de nos communautés culturelles ici. On le voit dans certaines communautés, communautés asiatiques, les Haïtiens, etc. On se promène dans les parcs l'été. Qui sont dans les parcs l'été en train de faire des barbecues puis tout ça, c'est des communautés culturelles, parce que souvent ils habitent dans des petits appartements, ils ont un petit balcon, là ils profitent, ils vont dans un parc, c'est tout le temps des rassemblements familiaux, puis on voit les vieux font partie de la gang.
Oui, ben c'est ça. Alors il faut être capable de s'inspirer de ces gens-là qui ont choisi le Québec et le Canada comme terre d'accueil et qui ont peut-être quelque chose à nous apprendre de ce côté-là. Et je pense que c'est le moment, cette pandémie, de pouvoir engager cette réflexion qui est extrêmement importante pour notre avenir.
Et personnellement, ça vous vient d'où, ça, cette défense des personnes âgées? Parce que ça fait un bout de temps que vous parlez de ça.
Ben, depuis mon cours de médecine, j'avais entendu à ce moment-là, c'était dans les années 80, un médecin nous parler de la gériatrie, qui était une discipline en émergence en Europe, et cette heure de cours m'avait beaucoup intéressé, parce que moi, je m'en allais en médecine de famille, je voulais avoir une approche globale, une approche de soins envers les personnes, et la philosophie qui entourait les soins aux personnes âgées, c'était quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Alors, je suis allé me former à Grenoble, tant en gériatrie qu'en gérontologie sociale, et lorsque je suis revenu au Québec, ça a changé ma vie. Toute ma carrière a été orientée vers les soins aux personnes âgées, et aussi toute l'attitude par rapport aux personnes âgées, donc, ça fait l'objet de mes travaux de recherche, de mon enseignement, de mon activité clinique. Et je suis très engagé dans ce combat. Je pense que c'est un combat. Ça fait 35 ans que je crie dans le désert qu'il faut développer des soins à domicile. J'ai même été en politique pour essayer de faire bouger les choses. Et je vais continuer à revendiquer des soins et services de qualité, à revendiquer que les personnes âgées soient des citoyens à part entière jusqu'à mon dernier souffle.
Parce qu'on remercie, puis on s'en va là. Là. C'est aussi un combat égoïste. Là. On pense à nous. Là. Bientôt, ça va être nous autres. Là.
Ben oui, ben c'est ça. Je suis un peu. Je travaille pour moi. Je travaille pour moi parce que moi, je voudrais être capable de vieillir chez moi, de vieillir parmi les miens, dans mon milieu, de recevoir les soins et services dont j'ai besoin et de pouvoir, comme le disait un gériatre anglais, mourir les bottes aux pieds.
Je le rappelle, 92% des décès ont été constatés dans le groupe d'âge de 70 ans et plus. C'est pas rien. Et pourtant, comme vous dites, c'est silence radio. Ben merci beaucoup de continuer ce combat-là, Monsieur Hébert.
Richard, il y a même eu un hashtag Boomer Remover. C'est pas les bébés boomers dont on parle là, qui meurent. C'est les gens de plus de 75 ans, c'est les gens de la génération silencieuse avant les boomers.
Ben oui.
Alors, ceux qui en ont contre les boomers, là. Ben, vous trompez de cible, là.
Boomer Remover, comme si on est content qu'il y ait la pandémie parce qu'ils nous débarrassent des maudits boomers. C'est genre, ça, c'est épouvantable de dire ça. Et comme vous dites, all lives matter. On devrait avoir là, on devrait avoir aussi un mouvement comme ça. Et malheureusement, on le fait pas. Et c'est pas parce qu'on a 85 ans que notre vie n'a aucune importance. Merci de continuer ce combat-là. Puis on va s'en reparler, c'est sûr, M. Hébert, parce que moi, je partage aussi votre intérêt pour ça. Merci beaucoup, Régent Hébert.
Au plaisir. Bonne journée.
Merci.